Voilà, Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose, fatti e fissi.
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, curieux des maboules à facettes, ravis des paillettes ou des étoiles plus sombres. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma qui sculpte donc le cinéma en Sud-Ardèche. Et vous avez toujours autant raison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en bonne compagnie, comme toujours, mais en compagnie restreinte. Avec Didier. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Didier.
Bonjour Didier, justement. Très fatigué, Sophie, déjà ce
voilà,
matin.
C'est ça. Ce cinémascope va être un peu compliqué. Et, et Olivier, bonjour Didier.
Bonjour Marie.
Et bonjour Sylvain. Et Sylvain.
Bien, bonjour.
Bonjour Julien. Tu vas bien?
Ça va et toi Marie?
Écoute, parfaitement. Je ne vois pas pourquoi cette question. Tout va bien. Au programme de ce cinémascope, deux films. Ouais. Dali.
Très différent.
Oui, très différent, mon Dieu. Dali, enfin, ça parle d'étoiles et de paillettes, je ne sais pas. Et Stella, une vie allemande. Et puis peut-être d'autres films ou d'autres surprises, on verra. Allez, on ne perd pas de temps, on commence.
Maître, on peut faire une pause un peu, là? Putain, quel enfer!
Mais ça va pas, la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est?
Dali est probablement...
On est là!
...le seul artiste encore vivant sur cette planète.
La caméra, énorme ou gigantesque?
Moteur!
Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je peux pas les supporter.
C'est moi? Un plus vieux.
Un vieux, vous?
Oui, très vieux, très laid. Une chaise roulante.
Alors voilà, ça commence en enfer.
En enfer.
C'est inadmissible.
Pablo! Voilà!
Monsieur Dali, s'il vous plaît.
Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts.
Oh.
Là, c'est Dali.
Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre.
Inimitable, Dali et Olivier à côté de moi riaient. Oui. Alors, es allé voir ce film de Quentin Dupieux.
Oui, j'ai bien fait. Oui. J'ai beaucoup aimé, oui. Pour pas mal de raisons. Une des raisons, c'est que mon rapport à... Enfin, tout le monde s'en fiche de mon rapport à Dupieux, mais c'est pas grave, j'en parle quand même. C'est-à-dire, pour moi, ça a été un rapport assez difficile longtemps, quoi, Dupieux. J'ai toujours eu me demander s'il se moquait pas un peu de moi, quoi. Voilà, au poste, tout ça, ça me parlait pas. Et puis, progressivement, il y a des Dupieux qui m'ont plu. Mandibule, j'ai beaucoup aimé. Un qui m'a moins plu, Le Dain. Un qui m'a beaucoup plu, Yannick, qui me paraissait poser des vraies questions sur le théâtre, sur la création artistique. Ouais, voilà, exactement. Et puis là, pardon, ouais, Dali, j'ai beaucoup aimé donc le film lui-même, qui est un objet très très original. Tu disais que ça avait pas grand chose à voir avec Stella, dont Didier nous parlera ensuite. Effectivement, c'est un film qui te fait dire qu'au cinéma tout est possible, quoi. Qu'il y a autant d'aventures que de possibles que de films. Et là, c'en est une, donc. Et puis alors, le sujet, c'est autre raison pour laquelle j'ai aimé voir ce film, c'est Dali. Moi, j'ai fréquenté les expositions de peinture et de photographie et les musées bien avant de fréquenter les salles de cinéma. Donc j'ai un peu cet angle-là. J'arrive au cinéma avec la tête pleine de peinture et de photos. Et donc Dali, il a une place particulière dans l'histoire de la peinture. Tous les amateurs de peinture disent à peu près la même chose, c'est que c'est pas un peintre.
C'est-à-dire que il arrive, c'est la génération après Picasso. Picasso, il fait Les Demoiselles d'Avignon en 1906. Dali, il naît en 1904. Et Dali, quand il arrive d'Espagne, il rencontre Pablo Picasso. Il va voir Picasso et il lui montre un de ses tableaux. Et Picasso, paraît-il, ne répond rien et lui montre, donc Picasso montre à Dali des dizaines et dizaines de ses œuvres. Et à la fin, paraît-il, il se contente d'aller vers Dali et de lui dire « t'as compris ?» Et effectivement, donc Dali n'a rien compris. Picasso, on peut lui reprocher d'avoir tout fait en peinture, hein, mais il a fait de la peinture. Dali, lui, il arrive à un moment donné où ça fait un moment que la photographie et le cinéma existent. Et la peinture, bien entendu, aussi. Et il y a une catégorie qui s'est ouverte pour les philosophes, en fait. C'est la catégorie de l'image, le monde de l'image. Et Dali arrive dans le monde de l'image. Et il fait des images. Et c'est quoi les images ? Ben, c'est tout ce qu'il y a entre un objet regardé et un œil qui regarde. Donc c'est extrêmement vaste. Et Dali, il arrive à une époque aussi où l'image, elle est utilisée pour des raisons politiques et religieuses, énormément, surtout politiques évidemment, et puis où l'image est de plus en plus utilisée à des fins commerciales. Et Dali, il arrive et il prend tout ça. Il rentre dans ce monde de l'image et il devient un immense faiseur d'images. Et les amateurs de peinture disent ça, disent que les peintures de Dali, ce sont des images qui ont valeur d'image, beaucoup plus que de peinture et même beaucoup plus que de symboles. Et les fins commerciales, on les connaît, Dali ira jusqu'à faire un spot publicitaire pour le chocolat Lanvin, quoi. Je suis fou du chocolat Lanvin. Et il s'offre lui-même en image dans ce monde de l'image pour communiquer commercialement avec l'image. Et il arrive alors en plus en surfant sur la vague surréaliste, à laquelle il n'appartient pas. On entend toujours dire Dali, Salvador Dali, c'est un peintre surréaliste. Non. Magritte, peut-être, de Chirico, peut-être, Miro, peut-être même, mais pas Dali. Dali, il s'est fait virer du mouvement surréaliste. André Breton a fait un anagramme avec son nom. Il a dit Salvador Dali, c'est Avida Dollar. C'est l'homme avide de dollars. Et il a dégagé du mouvement surréaliste. La seule chose que Dali a emprunté au mouvement surréaliste, c'est l'idée qu'on pouvait faire n'importe quoi avec les images. Et il se l'est bien mis dans la tête, Dali, je peux faire n'importe quoi.
Disruptif.
Paranoïaque critique. Il le dit lui-même. À la Sorbonne, il a fait une conférence phénoménologique paranoïaque critique. Donc, je suis dans l'image, j'assume ma métaphysique. Bon, et Dupieux arrive. Voilà. Et Dupieux, à mon sens, enfin, si j'ai bon là, concernant mon diagnostic Dali, bah, Dupieux, il fait le même que le mien. Et il fait des tas d'images super, mais mobiles et en couleur, autour de Dali lui-même image. C'est-à-dire, Dali, il est interprété par 4, 5, 6 acteurs, et pas des moindres, un casting fabuleux, avec en plus Anaïs de Moustier et Romain Duris, qui ne gâchent rien, qui sont vraiment très bons, qui font vraiment le job. J'ai trouvé rigolo, d'ailleurs, dans la bande-annonce, je n'avais pas remarqué que le chauffeur de Dali s'appelle Pablo, comme Pablo Picasso, on voit à peu près le truc. Et il a tué le père, quoi, d'une certaine manière, pour pouvoir faire ses images à perte de vue. Et Dupieux, il nous dit quoi ? Ben, dans l'image, on peut faire n'importe quoi, et Dupieux a la réputation de faire n'importe quoi, mais justement, dans le n'importe quoi, il peut y avoir tout autre chose que n'importe quoi. C'est-à-dire que le film de Dupieux, il fait le diagnostic de tout ça, il assume, mais il fait un film avec ça. Et il fait un vrai film qui est construit, qui est d'abord très drôle. Ça rigolait dans la salle, vraiment. Donc, il a fait un bel objet cinématographique, un beau film qui comprend toute une réflexion sur les dangers de l'image et sur la futilité éventuelle de l'image. Avec laquelle, futilité, bah, il faut faire. Donc moi, j'ai passé un excellent moment de cinéma qui est en plus une réflexion sur le cinéma, quoi. Enfin, voilà mon avis, quoi.
Alors moi, j'ai pas vu le film, mais, mais j'ajouterais quand même que Dali a aussi une activité cinématographique avec Buñuel en particulier, ouais. avec L'Âge d'or. On pourrait consacrer une émission entière à ce film, à ouais. son histoire, qui a complètement déchaîné les passions à l'époque et qui reste encore quelque chose d'assez fabuleux quand on regarde ça, par son anticléricalisme et puis cette fameuse image que chaque spectateur qu'il a vu une fois n'a pas oublié avec un œil qui est coupé en deux par un rasoir. Ouais.
Mais voilà, le cinéaste évidemment c'est Buñuel quoi.
Le cinéaste c'est Buñuel mais le scénariste c'est enfin il oui. y a beaucoup de Dali dans le côté surréaliste du scénario.
À voir donc Dali il est au Naviera Aubenas cette semaine et à partir de la semaine prochaine à Privas. Merci Olivier tu nous as donné envie.
Ben, j'aimerais bien que vous le voyez. J'ai une personne que je connais bien, que j'ai rencontrée hier soir et qui était dans la salle en même temps que moi, qui s'est régalée aussi et qui avait été voir ce film sur le conseil de sa fille parce que cette personne dont je parle hésitait. Parce qu'on hésite à aller voir un Dupieux. Maintenant, moi, je fais partie des gens qui attendent le suivant. En plus, c'est pas trop long. 1h20.
C'est ça.
C'est bien.
Eh ben, on le disait tout à l'heure... Peut-être autre ambiance.
Du musst doch bereuen, bitte. Du kannst doch mit dieser Schuld nicht einfach so weiterleben.
One, two, three, four.
Bin eh bald weg. Kriegen wir alle raus. Und wenn ich dich in meinen Koffer stopfe?
Dein Vater ist im Knast. Dafür kannst du die Todesstrafe kriegen.
Weil wir Juden sind. Ja, damit können wir auch alles entschuldigen.
Frau Kübel, seit gestern gilt die 13. Verordnung zum Reichsbürgergesetz. Das heißt, bei Juden können wir sofort und ohne jedes weitere Verfahren vollstrecken.
Wenn sie dich ohne Stern erwischen, dann stecken sie dich sofort ins Lager.
Ich aus wie eine Jüdin. Ich kann euch auch solche Ausweise besorgen. Da könnt ihr euch frei bewegen.
Was ist das Geld dabei?
Ist leider teurer geworden. Ich brauche 2000 mehr.
So sind die Zeiten. Geh mit oder geh unter.
Gestapo, mitkommen.
Lass Juden schützen?
Nein.
Ach, das ist nicht gut, sein eigenes Volk zu verraten.
Der Mundfunk schnappt mal wieder über. Angeblich läuft eine blonde Frau über den Kudamm und verrät die Juden.
Bis du morgen Abend habe ich 93 Gänge, oder ich setze dich an auf den Zug.
Du hast sie abgewiesen.
Dann machen wir doch genau das, was du machst.
Der Armut, ich will ihn rausschützen. Ich bin doch noch so jung.
Du hast schreckliche Dinge getan. Das kannst du doch nicht leugnen.
Stella, une vie allemande de Kilian Riedhoff avec Paul Haber, notamment qu'on a vu dernièrement dans Le Ciel Rouge,
magnifique.
De Christian Petzold. Didier, tu es donc allé voir.
Oui, oui, je trouve que c'est un film très très important. Donc, pour resituer un peu Kilian Riedhoff, le réalisateur, donc c'est pas un réalisateur allemand très connu en France, et pourtant, il a fait récemment, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, un film qui est passé trop inaperçu, je crois, qui s'appelait « Vous n'aurez pas ma haine ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était un film sur l'histoire d'un personnage après les attentats du Bataclan et qui choisissait d'échanger sa haine des terroristes contre l'amour qu'il portait, lui, à sa femme et à sa fille disparue dans ces attentats. Et je trouvais que c'était un film très, très intéressant. Et malheureusement, Stella, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est un film qui me semble également susceptible d'une attention. Alors pourquoi parce qu'il est assez, assez différent. Donc le cinéma allemand nous a habitués à produire très régulièrement des films sur l'époque du nazisme. Bon, c'est un traumatisme dont l'Allemagne ne se remet pas, et on comprend évidemment pourquoi, et dont ils ne se remettront pas avant très très longtemps. Je voulais citer quelques films pour resituer, par exemple Sophie Scholl, qui faisait partie de cet organisme La Rose Blanche qui luttait contre les nazis et qui a été assassiné par eux. On a vu aussi, mais tout ça c'est des films qui ont entre 5 et 10, 12 ans, relativement récent. On a vu aussi Elzer, un héros ordinaire du nom de ce résistant allemand au nazisme qui, en 1939, a bien failli avoir la peau de Hitler dans un attentat dans une brasserie. Et bon, malheureusement, ça a raté. Et que le cinéma a remis sur le devant de la scène ce personnage. On a eu Fritz Bauer, qui lui était un juge allemand, ça c'est après la guerre, qui a même initié la traque de Eichmann en Amérique du Sud, avec le Mossad, puisque les Allemands n'étaient pas très chauds pour, voilà, donc il a collaboré avec le Mossad un peu même sous la table, quoi, et tout. Et puis Le labyrinthe du silence, un peu dans le même genre, qui raconte l'histoire réelle également d'un jeune magistrat dans les années 60, qui s'aperçoit que, en fait, la mémoire allemande, au début des années 60, c'est-à-dire très peu de temps après la guerre, s'aperçoit que la mémoire allemande sur la Shoah est en train de ficher le camp, et que, ma foi, pour beaucoup de gens, en particulier la jeune génération, Auschwitz, c'était un camp de travail un peu dur, quoi, voilà, et qui voit des anciens bourreaux nazis vaquer tranquillement à leurs occupations, et qui va décider d'arrêter ça, enfin, à son niveau, et de dire non, ces gens-là doivent être jugés, et qui va mener un combat extrêmement long, extrêmement difficile. Donc, on a ces corpus de films comme ça qui présentent, alors, d'une façon très très large, je dirais, des héros anti-nazis. Stella est très très différent. Stella, c'est, alors d'abord, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc la vie et l'histoire de Stella Goldschlag, donc une jeune femme juive, chanteuse de jazz, pas très connue, mais qui rêve même de Broadway, enfin qui rêve de célébrité dans le Berlin des années 40, donc elle est juive. Elle est blonde, donc elle passe un peu par-dessus tout ce qui se passe. Quoi. Bon, alors il y a beaucoup de juifs qui sont plus à Berlin. Ceux qui ont pu ont émigré, énormément ont été arrêtés, déportés, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de elle et de ses parents. Et elle vit un peu comme si ça n'existait pas, quoi. C'est-à-dire, elle porte pas l'étoile jaune, elle donne des concerts, elle traficote à droite à gauche. Elle a une vie un petit peu comme si, oui, c'est une vie de jeune fille libre qui a des projets assez insouciante et assez libre. Mais évidemment, elle va être rattrapée par le système au bout d'un certain nombre d'années, rattrapée, emprisonnée, torturée, menacée de mort, menacée d'être expédiée à Auschwitz. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, on ne savait pas. Elle, a priori, dans le film, elle savait très bien, quoi. Elle savait très très bien. Et elle va accepter, pour sauver sa peau, de dénoncer d'autres juifs.
Là, tu nous, c'est dès le début, tu nous spoiles pas tout le film.
Je sais plus comment on appelle ça. Non, c'est vraiment, c'est le cœur du film. C'est le cœur du film. Elle va accepter ça, y compris des amis. Et alors, on ne sait pas exactement combien parce que c'est très compliqué, mais les historiens estiment le nombre de morts qu'elle a causé entre 300 et 6000. Donc on ne saura jamais exactement, mais même si c'est la barre minimum, 300, c'est énorme, y compris des gens proches d'elle, quoi. Et on a un peu cette impression, donc elle met le doigt dans cet engrenage, et on va la surnommer, d'ailleurs, parce qu'elle finit par être connue dans le milieu, on va la surnommer le grappin. Comment dire, elle met un peu le doigt dans cet engrenage. Et quelque part dans le film, on a l'impression à un moment que de bourreau forcé, elle devient presque, elle va essayer de faire du chiffre presque. Et ça m'a ramené, moi, à, je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Jonathan Little qui avait eu Les Bienveillantes, qui avait eu le Goncourt début des années 2000, je crois, où au début de ce livre, on est dans la Shoah par balle, ce qu'on appelle la Shoah par balle, c'est-à-dire les massacres de juifs et de résistants exécutés par balle dans des fosses communes.
Par les Einsatzgruppen.
Voilà, et avec des soldats. Des soldats de la Wehrmacht aussi, on ne le dit pas beaucoup, mais ils ont participé aussi. Et donc on a des soldats ici qui, des journées entières, tirent des balles dans la tête des gens, des enfants, des choses comme ça. Et certains ont beaucoup de mal avec ça. Et Jonathan Little explique que le bourreau devient plus dur parce qu'il va rejeter sa faute sur la victime. Dire c'est de ta faute si je suis obligé de faire ça, c'est de ta faute si je me sens mal, donc non seulement je vais te tuer mais je vais te faire mal, je vais te punir de et on a, alors c'est pas à ce niveau-là dans ce récit, mais on a quand même moi j'ai eu cette impression que à un moment elle va dépasser presque ce qu'on lui demande, et il y a des séquences qui sont absolument épouvantable et effrayante, quoi. Et c'est ça, enfin, c'est un personnage qui est à la fois fascinant et effrayant, et qui va nous mettre très très mal à l'aise. En tout cas, moi, ça m'a mis très très mal à l'aise. Alors, la mise en scène est très 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 puissante, puisque le décor, je le disais un peu au début, c'est un Berlin. Ma foi, somme toute, tout à fait agréable, dans lequel il y a des cabarets, il y a des concerts, on peut draguer, il y a des journées de soleil, on n'est pas du tout dans l'ambiance de nombreux films, on est un peu dans le brouillard, dans le nocturne, etc. Non, c'est un film parfois relativement lumineux. Le réalisateur a choisi un montage très déstructuré, également, qui déconcerte beaucoup. Et au-delà de l'histoire de ce personnage, alors qui fera 10 ans de prison dans les camps soviétiques à la fin de la guerre, qui reviendra en Allemagne, sera à la fois condamné à 10 ans de prison, mais ne les fera pas en raison des 10 ans qu'elle a déjà fait en Russie. Et elle se suicidera à 72 ans. Donc vraiment, c'est une histoire absolument incroyable qui a traversé le temps et l'histoire. Et au-delà du personnage, et au-delà de l'histoire de Stella, de cette vie allemande, pour moi, le film met en scène la mécanique du totalitarisme et montre comment on peut être brisé et relativement facilement est amené à commettre des actes absolument épouvantables juste pour survivre. Et c'est son cas, elle survit. On lui dit, tu vas survivre et tes parents vont survivre si tu fais ça. Et hop, et l'engrenage est parti. Et je vais terminer en lisant un tout petit texte du réalisateur qui conforte ça et qui nous ramène aussi à aujourd'hui, qui dit « Il est évident que le sujet est aujourd'hui plus que jamais pertinent. » La dictature est à l'heure actuelle beaucoup plus proche de nous que nous nous plaisons à le croire. Nous devrions donc profiter de cette occasion pour réfléchir à nos principes éthiques, car nous serons peut-être obligés, tôt ou tard, de choisir son camp. Et moi, voilà, je trouve que c'est exactement ça, et ça m'a ramené aussi, pour être un tout petit peu plus léger, mais pas beaucoup, à la chanson de Goldman, née en 17 à Liechtenstein, qui est exactement sur cette question, c'est-à-dire moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Et ça, je crois que personne n'est capable de répondre à cette question avant d'avoir été
confronté
mis
dans
en
la situation.
Ouais.
Ah ben, on en parlait avant l'émission, Didier et moi, de ces questions, en particulier après que nous ayons vu et commenté un petit peu la zone d'intérêt de Jonathan Glaser. Il se trouve qu'effectivement, bon, moi c'est un peu mon métier de faire de la philosophie, et que j'en fais dans un atelier philo où on, depuis longtemps, on se pose cette question de la morale, du bien, du mal, du choix, de la liberté, etc. Il y a une chose, en tout cas, moi, qui me frappe, c'est que dans le débat public, en général, hein, médiatique, politique, religieux, moral, etc., la question du choix, justement, qu'est-ce que j'aurais fait ? On a tout un attirail, toute une somme invraisemblable d'outils
qui nous servent à ne pas finalement nous poser la question de savoir ce que nous aurions choisi. Et je ne dis pas ça du tout méchamment, mais même le fait de dire « je ne sais pas ce que j'aurais fait » est encore une des manières qu'on a aujourd'hui de ne pas creuser la question du choix. C'est-à-dire, on dit « moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait », puis comme ça, on est tranquille. Or, comme le dit le réalisateur que Didier vient de citer, la dictature n'est pas loin. Ce n'est pas une vieille histoire d'avant-guerre ou de la guerre, ou etc. La dictature, non seulement, elle n'est pas loin en avion, Téhéran, Moscou, non seulement ça, bien sûr, la dictature, la vraie, etc. Mais la dictature, elle est aussi chez nous et dans nos têtes. Alors je prends juste un exemple, ça m'a frappé parce que j'ai entendu ça aux nouvelles juste avant de venir. La commission contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants,
Civise,
son cœur l'a quitté depuis longtemps en la personne du juge Durand. Depuis, sa vice-présidente a été accusée d'harcèlement lors d'une consultation médicale. Son président à cette commission l'a soutenu et maintenant démissionne. Ce qui veut dire que la commission, en gros, disparaît.
Elle explose.
Elle explose. Après que le juge Durand ait auditionné 30 000 victimes, dont on estime que seulement 8% ont vu leur affaire avancer dans le débat public et au niveau de la justice. 8% de 30 000. On estime qu'il y a environ 160 000 agressions sexuelles envers enfants par année en France. Alors là, c'est pas qu'est-ce que j'aurais fait au cas où, etc. C'est chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, pour que les violences et sexuelles faites aux enfants et l'inceste, ça s'arrête. Pas qu'est-ce que j'aurais fait en 44. Qu'est-ce que je fais en 2024. Donc là, il y a une vraie question. Et je pense que chacun a un miroir à la maison. C'est pas compliqué. Vous pointez, regardez dans votre miroir, et puis vous demandez ce que vous faites contre les violences sexuelles faites aux enfants. C'est tout.
Qui sont souvent aussi, tu le rappelais, enfin, dans un cadre très proche, dans un cadre familial.
Bien sûr.
Et que ce sont des choses que, au sein même des familles, voilà, on est nombreux et nombreuses à être touché par ces questions. Et donc on peut agir.
Oui.
Voilà. Peut-être...
J'en dis pas plus, on aura l'occasion d'en parler à Longue Curieuse.
Justement, mardi, on reviendra sur ces questions et on parlera aussi, d'ailleurs, jeudi, probablement, de la situation des maisons de l'enfance des phares.
Oui.
Voilà. Je ne sais pas, une petite
une
dernière,
léger, non
oui, tout à fait. Que dire? Ah bah tiens, si, avec légèreté. Ce soir, Iris et les hommes à Tueil, oui. À la salle La Vesprade à 20h30, ou sinon toujours aussi léger, Les Trois Mousquetaires.
Oui.
Peut-être.
Mais
dimanche.
Là, on est entre adultes consentants, là, c'est bien.
Oui, c'est ça. Dimanche, à l'Alvade, à la salle polyvalente, et que la fête continue. La fête continue, c'est mardi. Voilà, c'est bon. Là, ça va aller un peu mieux, mais ne pas se voiler la face. Tu as raison, toujours se regarder dans le miroir. Mais bon, on peut quand même aller au cinéma voir une friandise. Et la fête continue. Ou Dali, que tu nous as recommandé, donc, qui est à Aubenas, au navire. Stella, une vie allemande qui est au regain du Taï et pour l'instant uniquement au Taï. Merci tous les deux pour cette émission. Merci Sylvain pour la réalisation. On se retrouve avec toujours plus de cinéma vendredi prochain. Ciao, bon week-end.
Voilà.